Bonjour. Très vrai ce que dit Patrick par rapport à l'importance de l'attention, l'attention du cœur, d'être prêt à écouter, d'être prêt à se laisser remettre en question par les Écritures et par ce que Dieu veut nous dire. Il y a un homme de l'histoire du XXe siècle que j'aime beaucoup. Cet homme est un des hommes politiques les plus importants qu'il y ait eu, et sans sa pugnacité, sans sa persévérance, le monde ne serait peut-être pas tel qu'il est aujourd'hui. Cet homme s'appelait Winston Churchill. Vous en avez tous entendu parler, vous imaginez le monsieur, le chapeau melon, le cigare. En fin de vie dans son fauteuil roulant, et il est très connu pour nombreuses de ses déclarations. Churchill était un homme très cultivé et il était féru d'histoire. Et il a appris la politique au travers de l'apprentissage de l'histoire. Et Churchill est arrivé à une de ses conclusions assez cyniques, mais qui a quand même une parcelle de vérité, je trouve. Il dit: la principale leçon de l'histoire est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre. Vous notez le jeu de mots, il y a une leçon, mais on tire une leçon, mais une leçon qu'on ne peut pas apprendre. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Churchill. Cynisme, oui, parce que nous apprenons tout de même, nous progressons, nous avançons, mais ce que souligne ici Winston Churchill, c'est que l'homme, dans sa nature même, malgré tout son héritage du passé, toutes les connaissances qu'il acquiert, n'est pas capable de se changer lui-même et de tirer des leçons de son histoire. En sorte que pour Churchill et pour de nombreuses personnes, l'histoire est un éternel recommencement. Effectivement, l'homme ne peut pas se changer lui-même. C'est la conviction que nous, chrétiens évangéliques, qui croyons en l'existence de Dieu, nous avons, c'est que nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies pour pouvoir changer, pour pouvoir être transformés. En nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. Nous avons besoin d'un agent extérieur, de Dieu qui vienne transformer nos cœurs. Et donc, pour nous, l'histoire n'est pas cyclique, un éternel recommencement, mais nous savons que derrière cette apparence d'éternel recommencement, il y a un Dieu qui est souverain, et on nous raconte que l'histoire a un début et qu'elle aura un achèvement. Alors, pour nous aujourd'hui, chrétiens en France, l'histoire de l'Église est importante. Savoir comment l'Église a grandi, comment elle s'est développée, est importante parce que nous savons que nous pouvons tirer des leçons de cette histoire, puisque Dieu était bel et bien souverain sur son développement. C'est pour ça que dans la Bible, tous les livres de la Bible, l'immense majorité des livres de la Bible sont des livres historiques, où derrière l'histoire d'hommes et de femmes, nous voyons un plan de Dieu qui se déroule malgré nous, très parfois grâce à nous, mais souvent malgré nous. Et je voudrais ce matin que nous nous attachions à un texte qui parle de l'histoire de l'Église. Un petit texte de quelques versets qui raconte presque une anecdote d'un point de vue de l'histoire de l'Église, mais que Dieu a voulu que nous ayons dans la Bible. Je vous invite à prendre dans le livre des Actes, au verset 17, chapitre 17, pardon, et à partir du verset 10. Chapitre 17, à partir du verset 10. Dès qu'il fit nuit, les frères, donc les frères ici, ce sont les personnes qui étaient à Thessalonique. Je vais vous montrer une carte juste après qui va vous expliquer. Attendez, donc je vous la mets maintenant. Voilà. Dès qu'il fut nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Béré. Je vous explique. Paul est parti dans un voyage missionnaire depuis Jérusalem et il s'oriente progressivement vers l'Europe. Arrivé à Thessalonique, ici, il est en Europe, hein, Grèce actuelle, il doit fuir cette ville de Thessalonique pour cette beaucoup plus petite ville de Bérée que vous voyez là, parce qu'il est persécuté. Et donc des chrétiens de là-bas l'aident à fuir de nuit pour esquiver la persécution. Et donc Paul, avec son équipe, Silas notamment, se retrouve à Bérée. Une fois arrivé là, ceux-ci, donc Paul et Silas, se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait, c'est-à-dire Paul et Silas, si ce que Paul et Silas leur disaient, était juste. Beaucoup d'entre eux crurent. Et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la population. Alors, sans tarder, les frères, donc ici les frères de Bérée, firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre un bateau. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt. Puis ils partirent. Un récit court, 5 versets dans la Bible, aucun élément important de l'histoire de l'Église, comme je l'ai dit. Luc, l'auteur du livre des Actes, passe énormément d'étapes de la vie missionnaire de l'apôtre Paul, c'est-à-dire cet homme à qui Jésus a confié la mission d'aller porter le message de sa mort et de sa résurrection dans toute l'Europe. Et Paul est passé par d'innombrables villes. Et souvent, Luc, l'auteur du livre des Actes, ne fait que les citer. Et des fois, il s'attarde sur ce qu'il se passe. C'est-à-dire que Luc a réfléchi et a choisi parmi tout ce qu'il s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul, dans ses voyages-là, dans ses aventures, des éléments qui sont riches d'enseignements. Et donc il ne faudrait pas croire que simplement c'est dans ce court texte, nous n'avons pas grand-chose à retirer. La vraie question pour nous est pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous ayons, nous aujourd'hui à Grenoble, cette expérience missionnaire ? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Quelles sont les sources d'inspiration que nous pouvons tirer de ce récit d'un homme qui arrive dans une ville, qui annonce l'évangile, une poignée de personnes se mettent à croire, et puis cet homme doit partir puisque arrivent des contradicteurs qui le poursuivent depuis longtemps, et finalement il prend un bateau et il se rend jusqu'à la grande ville d'Athènes. Pourquoi ce court récit et que pouvons-nous en tirer? Je vous propose de nous inspirer des deux grands protagonistes, l'un est l'apôtre Paul et l'autre la communauté qui s'est fondée suite à son message. Regardons d'abord la façon dont Paul peut nous inspirer pour nous aujourd'hui et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer. Premièrement, ce que nous découvrons avec l'apôtre Paul, c'est que cet homme savait interagir avec la culture. Paul était un espèce d'hybride pour le monde juif d'alors. Il était de citoyenneté romaine, mais il était en même temps un juif, on ne pouvait pas faire plus juif que lui. Il avait étudié parmi les écoles rabbiniques les plus conservatrices, et c'était un juif authentique tout en étant un citoyen romain authentique. Et il vivait dans cette double, il avait comme héritage cette double culture, comme beaucoup d'entre nous ici ce matin, où nous avons deux nationalités ou deux cultures comme héritage. Et Paul avait reçu comme mission, lui spécifiquement, d'aller annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection de Christ, comme ça nous l'a été expliqué jusqu'à présent, pour la majorité des païens. Alors, païens, dans la Bible, c'est tout simplement les non-juifs. Le monde était divisé en deux catégories, ceux qui étaient juifs, et puis les autres, les païens. Et donc, la stratégie de Paul, en allant de ville en ville, donc dans des villes là, vous voyez, vous l'avez vu dans la carte, où nous sommes en Europe, nous ne sommes plus dans la Palestine d'alors, l'apôtre Paul commençait en général, ce n'est pas une règle normative, mais la plupart du temps, s'il avait connaissance d'une synagogue, c'était ces petites maisons, des pièces à peu près grandes comme celle-ci, enfin ça devait dépendre aussi de la taille des villes, mais où les juifs se retrouvaient pour lire l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes les saintes écritures. Et Paul se retrouvait là-bas où il avait des gens qui étaient comme lui, d'une culture grecque, d'une culture de l'Empire romain, mais qui en même temps étaient des juifs qui connaissaient la Bible. Et Paul, donc, commençait par là pour enseigner à ces personnes, et pour, probablement ces personnes lui servaient pour créer des contacts avec d'autres personnes ensuite dans la ville. Et nous voyons dans ces quelques versets que Paul s'adresse d'abord à la synagogue, mais nous voyons qu'il y a des conversions donc parmi ces juifs, mais aussi parmi des Grecs de la haute société. Donc il ne faut pas croire que Paul se serait arrêté simplement, se serait cantonné à cette petite synagogue là où il a enseigné, mais au travers de cette synagogue, il a pu annoncer l'évangile à beaucoup de personnes de cette ville de Bérée. Paul cherchait toujours à rejoindre la culture de là où il était. Il le dit lui-même aux Corinthiens dans une lettre qu'il leur a écrite. Il leur dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre à cause de l'Évangile. » Et donc, on perçoit clairement que Paul avait réfléchi à cette question, comment me faire comprendre, comment communiquer l'évangile, mon message, pour qu'il puisse être compris ici, là où je suis. Et il suffit de regarder ce texte que nous avons là, à la manière dont Paul va prêcher l'évangile ensuite dans la ville d'Athènes, où là il va se retrouver uniquement dans un lieu qui est 100% grec, où il va s'adresser à des Grecs et il va leur parler en partant de leur philosophe pour arriver à la même conclusion, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité. Quel enseignement pour nous ? Quel exemple ? C'est évident. Nous devons chercher, nous chrétiens, dans notre interaction avec notre monde, à essayer de le comprendre, à essayer de comprendre qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il craint, à quoi les gens autour de nous aspirent pour chercher et pour pouvoir leur offrir la réponse qu'apporte Dieu au travers de l'Évangile d'une manière qui soit adaptée, qui soit pertinente et qui démontre de notre part, non pas une forme de manipulation ou à chercher à convaincre pour convaincre et gagner à notre cause comme si nous y gagnions quelque chose, mais au contraire, à démontrer comme le faisait l'apôtre Paul qu'il se faisait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre. C'est-à-dire que par amour, il cherchait à rejoindre les gens qui étaient autour de lui, à les comprendre par amour et par amour leur expliquer le merveilleux message de l'Évangile. Et donc nous devons toujours chercher à rester connecté à notre société, à notre culture. Et sur ce sujet-là, il y a deux choses qui m'attristent, moi. C'est premièrement de voir des gens mépriser les chrétiens, pensant que ce sont des personnes qui sont arriérées, qui vivent encore sous un dogme moyenâgeux, qui ont refusé de réfléchir, qui ont refusé de penser à la culture et à ses évolutions, et qui restent cloîtrés dans leur système, dans leur dogme, complètement coupés du monde. Et c'est souvent comme ça que des non-chrétiens définissent des chrétiens, et des caricatures, nous pourrions en prendre des exemples à l'appel. Encore cette semaine, j'en ai lu plusieurs et c'était fou de voir comment les chrétiens étaient rabaissés à une bande de troupeaux qui ne sait pas réfléchir. Inversement, l'autre chose, moi, qui m'attriste, c'est de voir comment des chrétiens vivent volontairement, totalement coupés de la culture du monde et du monde de notre société, avec simplement comme attitude le rejet, parce que ce monde-là est païen. C'est-à-dire un comportement qui était un petit peu celui des juifs de l'époque, qui étaient les plus radicaux et qui rejetaient tout ce qui n'était pas comme eux. Contraire totalement au comportement de Jésus-Christ, au comportement de l'apôtre Paul, au comportement qui nous est ordonné par Dieu, qui est celui d'être dans notre monde, dans notre société, et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, et d'aimer Dieu, et par amour de pouvoir rejoindre les gens qui nous entourent, de les comprendre, et de chercher à leur parler de la façon la plus sincère, authentique possible et pertinente de ce Dieu qui s'est fait homme et qui est venu vivre sur terre et nous révéler qui il était. Deuxième point. Paul avait un enseignement qui était enraciné dans les Écritures. Il prend soin de souligner la signification de l'autorité et l'accomplissement des Écritures. Je vous relis. Ils y trouvèrent des gens qui étaient mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Donc on voit que Paul donc leur enseigne la parole de Dieu, et que font ces personnes ? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent. Au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire, ce qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre quelle était sa mission, c'est que le Nouveau Testament commence tout juste à s'écrire. Notamment, il va s'écrire au travers de sa propre plume. Mais il en est encore loin de sa diffusion dans toute l'Europe. Et donc Paul avait avec lui simplement que cette partie-là des Saintes Écritures. Il n'avait pas tout le Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les livres qui racontent l'histoire, la vie, la mort, la résurrection de Jésus et tous les enseignements que Jésus a voulu retransmettre à l'Église au travers de ses apôtres. Et donc Paul utiliser les Écritures pour toucher les gens et leur parler de Jésus-Christ. Ce que je trouve merveilleux avec cet exemple-là, de cette petite anecdote de ce qui s'est passé dans cette petite ville de Bérée qui comptait pour pas grand-chose à l'époque, c'est que nous avons, dans de nombreux cas, dans le Nouveau Testament, la manifestation de la puissance de Dieu pour amener des gens à lui au travers de miracles. Et nous pourrions dire, et l'apôtre Paul, qui avait une autorité, une mission tout à fait unique et particulière, a fait, durant sa vie, plusieurs miracles, de nombreux miracles, même très spectaculaires, des guérisons à foison. Il a chassé des personnes qui étaient démonisées, qui étaient sous l'emprise, vraiment, de puissances démoniaques qui leur faisaient du mal. L'apôtre Paul les a délivrés. Et on pourrait s'attendre, quand on est l'apôtre Paul, et qu'on a, entre guillemets, des super pouvoirs, à se dire, ben, je vais en user et en abuser. Enfin, je fais une comparaison un peu idiote, mais imaginez que vous avez le pouvoir de voler, je ne crois pas que vous allez souvent vous amuser à prendre votre voiture et vous retrouver dans les bouchons, comme tout le monde. Vous allez voler pour aller à un autre endroit. Bon. Eh bien, lui, l'apôtre Paul, ici, que fait-il ? Il utilise et il fait une démonstration à partir des Écritures. L'évangélisation, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, est tout sauf de l'endoctrinement, c'est-à-dire de chercher vis-à-vis du public à avoir une adhésion qui est complètement coupée de toute réflexion, complètement coupé de tout raisonnement et qui est simplement de se comporter justement comme un mouton de panurge à qui on a fait secouer devant lui une espérance qui reposerait sur absolument rien. Paul cherchait avec la Bible, avec les Écritures, avec tout l'Ancien Testament, à faire une démonstration à ces personnes qui avaient l'habitude de l'étudier, que tout concernait et tout trouvait son accomplissement dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et c'est fou de se rappeler pour nous que l'immense majorité des personnes qui sont venues à Jésus-Christ, qui sont nées de nouveau, qui sont rentrées dans l'Église, dans le Nouveau Testament, étaient des personnes qui n'avaient pas connaissance encore du Nouveau Testament. Leur enseignement ne se faisait qu'à partir de l'interprétation de l'Ancien Testament qui était centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et je pense que bon nombre d'entre vous se rappellent de Jérôme. Ce frère qui était militaire ici à Grenoble, qui a été muté maintenant il y a 3 ans à Paris, que nous avions baptisé ici. Jérôme, c'était extraordinaire puisque il est venu à l'église et il a dit « Voilà, moi je me pose des questions sur Dieu et je voudrais un petit peu plus en connaître. » En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait un intérêt pour Dieu, mais que finalement, commencer par l'histoire de Jésus, qui était Jésus, c'était déjà commencé vers la fin du film, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je lui ai proposé de survoler avec lui l'ensemble des grands textes de l'Ancien Testament pour qu'il ait la grande photo entre le début et la fin, qu'il ait un tableau d'ensemble. Et moi, ce que j'espérais, c'était que tout l'Ancien Testament allait lui permettre de se préparer à comprendre le Nouveau Testament et qui était Jésus, et qu'il allait placer sa foi en Jésus quand on arriverait au Nouveau Testament. Mince ! Arrivé dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, lorsque Dieu fait cette prophétie au roi David, qu'un jour il y aura un vrai roi qui règnera éternellement sur son peuple, un roi qui sera parfait, qui aura un règne éternel, on lisait ça, il m'a dit « Mais attends, mais là il est en train de parler de Jésus !» Je dis « Oui, c'est tout à fait ça, le reste de la Bible nous le démontre, il est en train de parler de Jésus, et Jésus affirme que cette prophétie le concernait. » Et lui qui était militaire, pour qui la notion d'autorité, de règne, de roi était importante, il a dit « Mais j'ai compris qui est ce roi, et c'est clair, il faut un roi tel que Jésus, c'est bon, comment je fais ?» Je dis, mais attends, on n'est pas encore au Nouveau Testament. Enfin, j'étais presque... C'était génial, au contraire. C'était super de voir comment l'Ancien Testament nous révèle Jésus-Christ. Et c'est le troisième point, c'est que Paul avait pour centre de son enseignement un enseignement invariablement centré sur l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Messie, Sauveur, annoncé, Dieu qui se ferait homme et qui viendrait sauver, ce Christ qui devait sauver en mourant sur la croix, en portant à notre place notre culpabilité et qui est ressuscité pour nous offrir la vie nouvelle et nous permettre d'avoir la vie éternelle et le plein pardon pour nos péchés. Lors de son étape précédente à Thessalonique, voilà ce qu'il est dit. Selon son habitude, je lis les versets 2 et 3, c'est toujours dans le même chapitre. Selon son habitude, Paul s'y rendit dans la synagogue là de Thessalonique, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures, selon son habitude. Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elle, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ, il y a eu un total changement de paradigme, tout a été réorganisé. Il a compris qu'il n'avait qu'une vision parcellaire de l'Ancien Testament et que la clé de compréhension de toutes les Écritures était l'incarnation, la venue, la vie et la mort de Jésus-Christ. Et grâce à cette révélation, à ce Christ qui s'est révélé à lui et qui lui a donné son Saint-Esprit et qui lui a permis de comprendre tout ça, ce que Paul a fait, c'est qu'il a entamé le tour du monde de son époque avec l'Ancien Testament, en disant « Voilà la vérité sur Jésus-Christ ». Et pour nous, en tant que chrétiens évangéliques, c'est un des arguments qui nous permet de comprendre et d'affirmer avec assurance la centralité de l'Évangile pour l'Église. La bonne nouvelle que l'Église proclame est toujours la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Messie et Sauveur crucifié et ressuscité, qui est mort et ressuscité afin que des pécheurs puissent obtenir le pardon pour leurs péchés, trouver le salut, recevoir l'Esprit de Dieu et accepter dans sa présence, et être accepté dans sa présence pour l'éternité. Et Paul proclamait cette vérité de façon non discriminatoire. Il parlait aux Juifs, il parlait aux non-Juifs, il parlait aux pauvres, il parlait aux riches. L'évangile est exclusif au sens où il nous affirme qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que par la foi en Jésus-Christ, mais l'évangile est universel au sens où il s'adresse à toute personne, de toute origine, de tout niveau social, de tout arrière-plan. Et c'est pas pour rien que ici Luc nous dise que dans cette bonne nouvelle était proclamée, il y avait aussi des gens de l'aristocratie grecque qui se sont tournés vers cet évangile-là. Et ce message, nous devons le conserver et ne jamais l'altérer. Dans une pub pour un film chrétien qui a été produit, un film hollywoodien, et qui, en ce moment, il y a une promotion sur ce film-là. Alors, je ne vais pas parler du film que je n'ai pas vu. Mais voici le message promotionnel qui était adressé à tous les responsables des églises pour encourager les chrétiens à aller voir ce film-là. La publicité dit « Le message essentiel du film étant profondément une annonce kérigmatique du salut, je vais revenir sur ce mot barbare, donc le message essentiel du film étant profondément l'annonce de l'évangile, je résume, deux points, la honte n'est pas une barrière à l'amour de Dieu, mais un pont vers la transformation absolue, la victoire, la liberté et l'espoir. » Voilà, selon cette promotion dédiée normalement à des pasteurs, à des responsables d'église, ce qu'est la proclamation de l'évangile. Ici, le publicitaire parle d'une annonce kérigmatique du salut. Et le mot kérigme est pour nous un mot barbare qu'on n'utilise plus du tout, mais le kérigme, c'est tout simplement le cœur, ça veut dire, c'est la proclamation, littéralement, c'est la traduction de la proclamation des apôtres. Que proclamaient les apôtres? C'est que selon les Écritures, le Messie devait mourir et ressusciter. Au cœur de l'Évangile, il y a la personne de Christ morte et ressuscitée. Et là, nous avons quelqu'un qui nous dit, voici le super message de l'Évangile que vous allez voir, c'est que la honte n'est pas une barrière à l'amour de Dieu et un pont vers la transformation absolue, la victoire, la liberté et l'espoir. Complètement à côté de ce qu'est le message de l'Évangile. Paul, parce qu'il prêchait un évangile qui était radical, qui était centré sur la personne de Christ, et non pas un message qui était juste plein de bons sentiments et qui parlerait d'un amour informe de Dieu, était un homme qui était sans cesse confronté à l'opposition et à la frustration pendant toute sa vie et sa mission. Il n'y a pas une étape dans sa mission qui s'est déroulée comme lui l'avait pensé. Pourtant, Paul était dirigé par Dieu. Il obéissait à Dieu et il se savait dans les plans de Dieu. Mais systématiquement, il a connu de l'opposition. Il l'a connu à plein de niveaux différents, au sein de son équipe, au sein de la part de Romains, de la part de Juifs, de la part de plein de personnes. Mais pour Paul, étant convaincu de la souveraineté de Dieu et qu'il était dans les plans de Dieu, il l'a vu dans toutes ces épreuves-là, finalement, des opportunités, et jamais il n'a dit « mince, ce n'est pas possible ici de remplir le ministère ». Il était à un endroit, il devait fuir, eh bien, il a fait ce qu'il fallait et Dieu l'a conduit à l'étape suivante. Était-il frustré? Oui. Souffrait-il? Oui. Mais il savait derrière tout ça que Dieu, lui, ne souffrait pas. Que Dieu, lui, n'était pas frustré, que Dieu accomplissait son plan sans connaître aucune opposition. Et trois constatations encore de ce qui s'est passé dans la vie de Paul et ce qu'on voit au travers de ce récit-là, c'est que l'opposition peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Et Paul a souvent connu une opposition qui venait de la part des Juifs, alors que l'Ancien Testament avait été écrit comme avait pour premier destinataire, premier lecteur, les Juifs. Et c'était les dernières personnes auxquelles on pourrait s'attendre d'être ces personnes-là qui soient opposées à l'Évangile. Mais il y avait des personnes qui refusaient de voir en la personne de Jésus-Christ le Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc, là où Paul passait, il y avait des hommes qui suivaient pour et tout faire pour détruire ce que Paul avait fait. Quelle frustration ! Imaginez que vous passez votre journée à construire quelque chose et le lendemain vous levez et quelqu'un a tout détruit. Mais Paul vivait cela d'étape en étape et devait repasser pour fortifier les gens parce qu'il savait et il avait pris ça comme principe qu'il y avait une opposition. Cette opposition, vous voyez là, elle part de Bérée, où il y a quelqu'un apparemment de Bérée qui retourne à Thessalonique pour prévenir d'autres personnes. Luc nous parle d'un succès où il y a beaucoup de personnes qui se tournent, mais ne passe pas pour autant le fait qu'il y a des personnes qui rejettent et qui se mettent en opposition. Et en fait, c'est le deuxième constat, c'est que la prédication de l'Évangile, qui ne pousse pas à une profonde repentance, ou qui ne donne pas une puissante et une réelle espérance, n'est pas authentique. On voit dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, dans toutes les Écritures, que lorsque Dieu parle, ça confronte l'homme au plus profond de lui-même. Et ça le pousse soit au rejet, soit à la repentance. Et là, nous voyons, c'est la troisième constatation et nous allons passer à la deuxième grande partie, c'est que quand il y a une prédication fidèle de l'Évangile, le fruit qu'elle porte n'est pas dû au charisme de la personne qui l'annonce, ni à son beau PowerPoint, ni à la qualité de ses illustrations. Dieu est souverain là-dessus. Paul a connu de cuisants échecs, et il a connu aussi de grands succès. Mais nous voyons dans ce texte quelque chose que l'auteur nous mentionne, qui est très différent de ce qui s'est passé à Thessalonique. C'est la disposition de cœur qu'avaient les personnes qui écoutaient son message. Comment les Béréens peuvent-ils nous inspirer? Premièrement, par leur attachement aux Écritures. Dans ce texte, Luc utilise trois verbes pour nous parler de ces Béréens et de leur attitude. Premièrement, ils sont bien disposés. Deuxièmement, ils accueillent la parole avec empressement. Et troisièmement, il l'examine scrupuleusement. Regardons-les de près. D'abord, ils sont bien disposés. Ce que veut dire le texte, c'était qu'ils avaient un cœur disposé à recevoir l'enseignement, c'est-à-dire un esprit ouvert. Et n'a-t-on jamais autant parlé dans notre société, dans notre époque, de l'importance d'avoir un esprit ouvert? Vous n'êtes pas d'accord? On l'entend tout le temps. C'est très important d'avoir un esprit ouvert et de ne pas rester cloisonné dans ses certitudes. Tout à fait, tout à fait. Nous devons avoir un esprit ouvert et être prêts à entendre des choses qui vont nous remettre en question. Nous devons prendre conscience que nos prédispositions à écouter, nos présupposés, contrôlent, ont une emprise très forte sur la façon dont nous allons écouter ce qui va nous être dit. Nous ne pouvons pas avoir d'avis sans avoir de présupposés, sans d'idées plus ou moins conscientes qui font un filtre à ce qui nous est dit et ce qui nous est proposé. J'illustre. À vous qui êtes chrétiens parce que vos parents étaient chrétiens, et que peut-être même vos grands-parents étaient chrétiens. Ne vous a-t-on jamais dit que vous croyez aujourd'hui en Dieu parce que vous avez été formaté par votre éducation? À vous qui n'êtes pas de famille chrétienne et qui ne croyez pas en Dieu, n'avez-vous pas été formaté à ne pas croire en Dieu par l'éducation que vous ont athée, que vous ont donné vos parents, et l'école que vous avez fréquentée? Notre histoire nous influence, prédispose notre cœur. Mais ce que la Bible ici nous dit, c'est que nous devons avoir l'esprit ouvert. En tant que d'une lignée chrétienne de génération en génération, l'esprit ouvert, est-ce que ce qui m'est enseigné là me convainc moi ou est-ce que j'adopte simplement une croyance héritée traditionnelle de mes parents? Est-ce que mon athéisme ou mon rejet, mon scepticisme vient de ce que me dit la Bible ou vient de ce que tout ce que les autres m'ont dit à propos de la Bible? Avoir un esprit ouvert. Nier l'influence que peuvent avoir nos présupposés, c'est nous en rendre esclaves. Et ça nous empêche de nous remettre en question et d'être, de progresser et de trouver des vraies réponses à nos vraies questions. Dans ce contexte, être ouvert d'esprit, c'est être humble, conscient que l'on a encore des choses à apprendre, conscient que notre attitude de cœur ouvre ou non notre esprit à être interpellé par ce que Dieu, s'il existait, pourrait nous dire. C'est ce que les Béréens nous montrent comme exemple, c'est que leur esprit était ouvert. Et comment leur foi a grandi en ayant un esprit ouvert, une vraie noblesse d'esprit, une vraie humilité, une réelle ouverture, celle qui dit qu'elle est prête à laisser de côté ses préjugés pour se laisser examiner et voir s'il y a une cohérence dans le message qui lui est annoncé. Et leur foi a été le fruit de leur conviction, de leur persuasion par les Écritures. Et c'est le deuxième point, ils accueillent la parole de Dieu avec empressement. Ils se hâtent de faire attention à ce qui leur était enseigné parce qu'ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. Nous avons des questions sérieuses. La Bible offre des réponses sérieuses. Nous devons avoir un empressement, une haute exigence par rapport à nos questions. Souvent, combien de fois il m'est arrivé de pouvoir rencontrer des personnes et voir des personnes qui ont des questions, mais vous savez, les questions à 100 000 euros, des questions hyper importantes et qui sont satisfaites de bribes de réponses qui sont en elles-mêmes complètement incohérentes et qui finalement, à peine on les secoue un peu, elles s'effritent ou face à la prochaine épreuve dans leur vie, tout s'effondrera. Nous avons besoin de solides réponses. Et nous voyons que ces personnes-là sont exemplaires parce qu'elles avaient un empressement à aller voir dans les Écritures si ce qu'on leur démontrait était vrai. La maturité, la croissance spirituelle pousse dans le terreau, dans l'empressement que nous avons dans les Écritures. Vouloir connaître Dieu sans vouloir connaître ce que dit Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est totalement incompatible. Et voir des personnes qui nous disent « moi j'ai soif de Dieu, je veux le connaître, mais je n'ai pas soif de la parole de Dieu », il y a un problème, ce n'est pas une vraie soif de Dieu. La spiritualité et la maturité poussent dans le terreau des Écritures et au travers des échanges des uns avec les autres. Et c'est le point suivant, c'est qu'il y avait un examen quotidien et minutieux des Écritures. Comme je l'ai expliqué, ces personnes-là, les premières rencontres que Paul a faites étaient dans la synagogue, et Paul, dans cette synagogue, parlait avec ces personnes-là qui avaient une certaine connaissance de tout l'Ancien Testament. Mais ces personnes devaient désapprendre ou être prêtes à réapprendre, à réencoder leurs connaissances au travers de ce que Paul leur a enseigné, c'est-à-dire la venue du Messie, Christ mort et ressuscité. Et on voit que leur intérêt était tel que chaque jour, enfin de façon quotidienne, ce qui ne décrirait pas vraisemblablement le fait de quotidienne comme nous on comprend, c'est-à-dire chaque jour à heure fixe, mais c'est soulignerait plutôt la fréquence des réunions régulières dans la synagogue de l'assemblée de la communauté juive selon certains commentateurs. C'est-à-dire qu'il y avait une porte, cette synagogue était ouverte et toute la journée et Paul y passait son temps et il y avait des groupes qui s'enchaînaient et des gens venaient, ils allaient parler à leurs amis et puis d'autres venaient, ils cherchaient à comprendre, etc. Et ils ouvraient les rouleaux et ils regardaient là où est-ce que Paul enseignait et qu'est-ce qu'il leur disait. Et c'est pour nous encore un enseignement et un rappel très important, un rappel que nous avons fêté il y a l'année dernière avec les 500 ans de la Réforme, où l'un de notre héritage de la Réforme est le fameux sola scriptura, l'écriture comme seule autorité dans l'Église en matière de révélation. L'écriture seule comme autorité normative de notre façon de vivre. Et beaucoup de personnes à l'époque lisaient les écritures dans les synagogues de façon quotidienne. Nous, chrétiens évangéliques, lisons-nous les écritures de façon quotidienne. Les examinons-nous avec soif de connaître plus de choses à propos de Dieu. Je n'ai pas affiché le texte sur le PowerPoint volontairement. Pourquoi ? Il y a peut-être 20 ans, même moins, 20-30 ans, pour des chrétiens évangéliques dans le monde entier, il était impensable de venir au culte sans sa Bible. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand des personnes prêchaient, on voyait peu de visages levés, enfin si on les voyait se lever de temps en temps, mais ils étaient dans le texte. Et ils regardaient dans le texte, et de temps en temps, ils allaient tourner des pages, ah oui, il a cité ça, ah tiens, ça me fait penser. Les gens examinaient les Écritures. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, ce n'est pas un problème, nous vous offrons des Bibles, et nous avons à cœur d'offrir des Bibles à qui en veut. Mais je voudrais encourager mon église locale, mes frères et sœurs, à venir avec leur Bible, même si c'est projeté, à pouvoir s'approprier dans leur Bible, celle qu'ils ont l'habitude de feuilleter, pour pouvoir retrouver, à prendre des notes si besoin est, à s'approprier pour pouvoir profiter ensuite dans les groupes de semaine où nous reprenons les prédications, de dire tiens, telle chose m'a interpellé, ça j'ai pas compris, ça le prédicateur, j'étais pas sûr d'être d'accord avec lui, parce que moi j'examine scrupuleusement les écritures et je veux être sûr que ce qu'on me disait était bien conforme, j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre. L'enseignement est de façon communautaire et ancré dans les écritures. Et enfin, la croissance spirituelle de cette communauté se développait d'une façon communautaire. Je vous montre une photo d'une synagogue un petit peu type de l'époque. C'était une pièce très simple. Il y avait des bancs qui formaient un carré, et au milieu, il y avait une table ou un pupitre où étaient posés les rouleaux de la loi, et il y avait la lecture de la parole de Dieu. Et ensuite, dans la synagogue, vous savez ce qui se passait ? C'était des échanges. C'était la façon d'être enseigné à l'époque. Il y avait une lecture et il y avait des échanges avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais tous échangés et adressaient des prières à Dieu et récitaient ensemble les grands textes des Écritures. Et si notre idée des groupes de quartier et des groupes de semaine n'était finalement pas dans la lignée de la synagogue d'alors, où la parole est au centre, nous sommes assis autour de la parole et nous échangeons, nous nous enseignons les uns les autres, nous nous exhortons et nous nous reprenons par la parole de Dieu. Enfin, nous voyons une solidarité des disciples par rapport à l'évangile et la propagation de l'évangile. Paul, encore une fois, voit une opposition, il est obligé de partir. Que fait Paul ? Il se sacrifie. Lui qui est la cible, laisse Silas et Timothée là-bas dans cette ville pour continuer d'exhorter et d'affermir cette jeune église. Paul est prêt à se sacrifier. Et de l'autre côté, ces jeunes chrétiens sont prêts à partir accompagner Paul, l'homme qui a une affiche où s'écrit « Wanted » sur sa tête, de partout, à faire un voyage par bateau, ce qui n'était pas une sinécure à l'époque, pour l'accompagner dans une autre ville afin qu'une autre ville de leur pays puisse entendre l'Évangile. Et nous voyons là que la communauté qui vit l'Évangile, qui vit de l'Évangile, vit pour l'Évangile. Et c'est ce à quoi nous sommes toujours appelés, nous, en tant qu'Église. Voici avec quoi je veux conclure. Le livre des Actes nous est donné pour contredire l'interprétation de l'histoire d'un homme comme Winston Churchill, pour qui j'ai tout le respect du monde. Au travers des Écritures, au travers du livre des Actes, nous voyons que Dieu poursuit son histoire, établit son plan envers et contre tout. Et que suite à la présence physique de Christ, et que Christ ensuite est remonté au ciel près du Père, il poursuit sa mission au travers de son Église qui répand non pas son message propre, mais le message de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous devons prêter attention au livre des Actes. Amen.